RFI, 6h30, à Bukavu, 4h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Paul Loncin-Spinelli. Bonjour Paul.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
À la une de votre journal, ces deux explosions meurtrières à Bukavu dans l'est de la RDC hier.
Au moins 11 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées dans la capitale provinciale du Sud Kivu. Deux détonations sur le lieu où des responsables de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda organisaient un meeting. Ils venaient de quitter les lieux. Le groupe armé comme le gouvernement congolais se renvoient la responsabilité. Le dégel continue entre la Somalie et l'Éthiopie. Hier, le président éthiopien Abiy Ahmed était à Mogadiscio en visite officielle. Une rencontre présenté comme une étape clé par son homologue Hassan Cheikh Mohamud entre les deux pays qui retissent leurs liens diplomatiques après une année 2024 marquée par les tensions. On reviendra aussi sur l'échec de la réunion des ministres des Finances du G20 mercredi et hier jeudi en Afrique du Sud en l'absence des ministres américains, japonais ou encore chinois. Les participants n'ont pas réussi à signer un communiqué commun. Et puis le gouvernement des Comores veut éviter un ramadan trop cher à sa population. Une batterie de mesures a ainsi été annoncée, mais elle ne plaise pas à tous les consommateurs. Dans l'est de la République démocratique du Congo, Bukavu, touché par deux explosions meurtrières. Hier, deux détonations qui ont retenti au milieu de la foule alors que des responsables de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda venaient de quitter la place de l'indépendance où ils tenaient un meeting quelques minutes auparavant. Selon des sources hospitalières, 11 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées. Kinshasa et l'AFC M23 parlent d'attentats. Après le choc, les réactions politiques se sont enchaînés, notamment du côté du gouvernement congolais, Paul Lorgerie.
Devant la presse hier soir, le ministre congolais de la Santé est revenu sur l'attentat qui a endeuillé Bukavu sans donner de bilan définitif.
Il y a eu un meeting qui a commencé vers 11h à Bukavu et après le départ des animateurs de ce meeting, 4 minutes après leur départ, il y a eu deux détonations qui ont entraîné immédiatement plusieurs morts qui ont été amenés dans nos services immédiatement. Il y avait 7 morts et des blessés graves dont le nombre n'est pas encore complètement déterminé.
Depuis l'attaque, les deux camps se rejettent la faute. Dans un tweet sur la plateforme X, la présidence de la République congolaise a évoqué l'organisation d'un meeting forcé et a condamné, je cite, « fermement cet acte terroriste odieux perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais ». Fin de citation. Déclencher une explosion après le départ des pantins tirés sur la même population, puis chercher le coupable ailleurs, est une autre forme du poison rwandais. A de son côté, surenchéri le ministre de la Communication Patrick Muyaya. Une version que réfutent les responsables de l'AFC M23 qui rejettent la faute sur Kinshasa. Selon un communiqué du mouvement politico-armé, deux personnes ont été appréhendées et la traque de tout leur réseau se poursuit avec fermeté.
Paul Lorgerie, le M23 soutenu par le Rwanda qui contrôle Bukavu donc, mais également Goma depuis fin janvier. Les membres du groupe armé ont depuis levé certaines restrictions comme la fermeture quotidienne à 15h de la frontière rwandaise au niveau de Gisenyi. Un allègement des mesures qui profite notamment aux commerçants rwandais. Reportage de Lucie Mouillot.
Assise sur son chariot, Gaudence Mukankundi attend un nouveau chargement devant la petite barrière. Avec l'extension des horaires d'ouverture de la frontière jusqu'à 22h, plus besoin pour la jeune femme de se presser.
Je travaille depuis 6h du matin jusqu'à 18h. Celui qui veut se reposer, il se repose. Et celui qui veut travailler, il travaille. Nous sommes contents et nous pouvons gagner beaucoup d'argent.
Augmentation des horaires, réduction des taxes à la frontière côté congolais et facilitation des traversées. De nombreux transporteurs rwandais ont plus que doublé leurs revenus quotidiens.
Avant la guerre, nous gagnions entre 6000 et 7000 par jour après déduction de toutes les dépenses. Maintenant, nous recevons entre 15 000 francs rwandais, 20 000 ou même 40 000 selon le travail effectué. Pas de problème, nous obtenons de l'argent.
Mais pour certains commerçants rwandais, la fermeture de l'aéroport de Goma depuis les affrontements fin janvier bloque une partie des activités. Faute de clients dans la boucherie d'Ouassé Réema, beaucoup de marchandises ont été jetées.
Les produits que nous vendions étaient envoyés en RDC à Kinshasa. Mais comme l'aéroport est fermé, il n'y a plus de mouvement vers Kinshasa. Et nous vendons très peu. En plus, les habitants de Goma n'ont plus assez d'argent pour acheter. Nos activités sont presque à l'arrêt.
Dans la boucherie, les frigos sont à moitié vides. Aucun réapprovisionnement de taille n'est prévu avant la réouverture de l'aéroport de Goma, fermé depuis désormais plus d'un mois. Lucie Mouillot, de retour de Gisenyi, RFI.
Sur le plan diplomatique à présent, les responsables des églises catholiques et évangéliques de la RDC se sont rendus hier jeudi à Brazzaville où ils ont rencontré Denis Sassou Nguesso. Ils ont réclamé plus d'investissements de la part du président du Congo-Bé pour tenter de résoudre la crise opposant la RDC et le Rwanda. Et puis hier, la justice française, elle, a décidé de classer une plainte déposée en décembre par la RDC contre des filiales d'Apple soupçonnées d'exporter et de livrer illégalement, voire de façon criminelle, des minerais congolais exploités par le Rwanda. Le parquet a estimé que les infractions de blanchiment et de tromperie étaient insuffisamment caractérisées. Les avocats comptent faire appel. Une autre plainte avait été déposée en Belgique. L'Éthiopie et la Somalie tiennent à montrer que leur rapprochement est en bonne voie. Il y a un an, la signature d'un protocole d'accord signé par Addis Abeba avec la région séparatiste du Somaliland pour un accès à la mer avait provoqué la fureur de Mogadiscio. Une année d'escalade qui s'en était suivie, mais les deux voisins avaient fini par se rabibocher en Turquie en décembre dernier en signant l'accord d'Ankara. Et hier, une nouvelle étape s'est ajoutée à ce processus de réchauffement de leurs relations puisque une délégation éthiopienne était reçue en Somalie. Guillaume Thibault.
Présentée comme une étape clé de la normalisation des relations bilatérales par le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, cette visite express, arrivée en fin de matinée, départ dans l'après-midi, d'Abiy Ahmed à Mogadiscio, est avant tout un renvoi d'ascenseur diplomatique, puisque les deux hommes se sont déjà vus mi-janvier à l'invitation du premier ministre éthiopien à Addis Abeba. Dans un communiqué commun diffusé ce jeudi en fin de journée, il est indiqué « L'Éthiopie et la Somalie sont des nations interdépendantes avec un destin commun et une vision partagée pour la stabilité et la prospérité régionale. La collaboration est essentielle pour réaliser nos aspirations communes », a complété Abiy Ahmed sur les réseaux sociaux. Liens diplomatiques, lutte contre les groupes terroristes dans la région ont été évoqués, ainsi que les intérêts économiques, notamment cette volonté de l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer. Les autorités somaliennes se sont pour le moment engagées à faciliter le passage des marchandises de l'Éthiopie vers les ports somaliens, en particulier celui de Berbera, situé sur le territoire séparatiste du Somaliland.
Guillaume Thibault, le G20 a fait du surplace en Afrique du Sud. Les ministres des Finances du groupe étaient réunis au Cap mercredi et hier jeudi, un sommet qui d'habitude pèse diplomatiquement. Le G20 représente en effet 85% du PIB mondial, 75% du commerce international, mais cette fois en l'absence des ministres des États-Unis, du Japon, encore de la Chine. Eh bien, le bilan est décevant. Après deux jours d'échanges, les ministres des Finances présents n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un communiqué commun, Valentin Hugues.
L'Afrique du Sud, très fière d'être le premier pays d'Afrique à présider le G20, attendait beaucoup de cette réunion, mais au bout du compte, impossible d'aboutir à une déclaration commune. Les tensions diplomatiques grandissantes et l'absence de certains ministres autour de la table laissaient déjà à penser que parler d'une seule et même voix ne serait pas chose facile. Pas de ministre des Finances chinois, indien ou encore américain. Les États-Unis prendront pourtant la relève de cette présidence du G20 après l'Afrique du Sud, mais c'est déjà la deuxième réunion qu'il manque après celle des ministres des Affaires étrangères la semaine dernière. Alors, au Cap, ces deux jours ont tout de même permis de mettre quelques sujets prioritaires sur la table. L'importance de la collaboration dans la lutte contre le changement climatique ou l'engagement contre le protectionnisme. Et d'après le ministre sud-africain Enoch Godongwana, la plupart des pays ont approuvé leur feuille de route. Mais il a aussi reconnu qu'il n'était pas très heureux de ne pas pouvoir présenter une déclaration signée par tous après deux jours d'échange, rappelant que les tensions diplomatiques sont des freins aux objectifs du G20. Valentin Hugues, Le Cap, RFI.
Le Fonds monétaire international a débloqué hier officiellement 101 millions de dollars pour soutenir Madagascar, un décaissement qui avait pris du retard mais finalement accordé après la mise en place de conditions exigées par le FMI. Ce montant sera englobé dans une enveloppe de 650 millions de dollars au total, censé aider au redressement budgétaire de la grande île. Le bailleur surveille notamment le redressement financier de la Jirama, c'est l'entreprise publique d'eau et d'électricité, et conseille également à l'État malgache d'augmenter ses recettes fiscales. Le gouvernement comorien, lui, veut épargner à sa population un ramadan trop onéreux cette année. À l'approche de la période sainte, une série de mesures pour lutter contre la vie chère a été annoncée hier en conférence de presse. Les autorités veulent ainsi garantir un approvisionnement suffisant et des prix abordables, même si des critiques commencent déjà à apparaître. Abdallah Mzembaba.
Face à la hausse des prix, les autorités tentent d'apaiser les inquiétudes. Le secrétaire général du gouvernement, Nour El Fath Azali, a détaillé un plan d'action en partenariat avec la Chambre de commerce. Parmi les mesures annoncées, un fonds de garantie de 6 milliards de francs comoriens pour sécuriser l'importation des produits de première nécessité et un assouplissement des obligations fiscales pour les opérateurs économiques.
On espère qu'avec 6 milliards, il y aura une abondance de produits dans le marché pour s'assurer qu'il y ait une grande quantité de ces produits pour qu'on sache qu'il y a assez de compétition et que ça puisse au final affecter le prix.
Autre priorité, l'électricité. 10 nouveaux groupes électrogènes doivent être branchés dès aujourd'hui pour atteindre une couverture de plus de 90% du territoire. Mais ces mesures laissent sceptiques la Fédération comorienne des consommateurs. Son juriste, Maître Ahmed Ali Abdallah, avocat au barreau de Moroni, regrette un manque de concertation et doute de l'impact réel sur les ménages.
La première réaction de la Fédération comorienne des consommateurs, c'est la grosse déception qui nous habite. La Fédération n'est pas là pour défendre les consommateurs. Elle est là pour défendre les intérêts des consommateurs. C'est une position très importante. Et là, ils sont victimes des prix exorbitants dont le service des prix n'a aucun contrôle.
Les autorités promettent, elles, un suivi rigoureux et assurent que ces ajustements ne seront pas limités au seul mois de Ramadan. Abdelham Zembaba Mourouni.
Et la question du pouvoir d'achat pendant le mois de Ramadan qui touche aussi la Guinée. Pour y faire face, l'État met en place des prix plafonds. On en reparle dans quelques minutes dans la chronique Afrique Économie. Restez bien avec nous sur RFI, il est 5h41 à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Et au programme des 15 prochaines minutes, le reportage de notre correspondant au Tchad, où les élèves d'écoles coraniques n'ont parfois pas d'autre choix que de mendier pour participer au financement de leurs établissements. Mais une association, le Secours Islamique France, a lancé il y a quelques mois un programme d'aide pour 700 enfants afin de leur permettre de se concentrer sur leurs études. Acheter à manger pendant le Ramadan ou le mois de Carême en Guinée, c'est parfois